Radio Kapi.
Le journal Belinda Busuma.
Constant Mutamba, comparé depuis hier devant la cour de cassation à Kinshasa, l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux est accusé de détournement de 19 millions de dollars dans un marché de gré à gré avec une société décrite comme fictive. Plus de 500 otages du groupe armé ADF et 150 combattants sont déjà sortis de la brousse depuis novembre 2022 dans le Nord Kivu et en Ituri. Chiffre publié hier à Bunia par Bridgeway Foundation, cette ONG internationale assure la prise en charge psychosociale des personnes kidnappées. Et puis, 250 personnes sont mortes de choléra dans la Tchopo depuis le début de cette année sur plus de 300 cas recensés, chiffre communiqué par la division provinciale de la santé dans la Tchopo. Pour en parler, nous recevons le docteur Bienvenu Ikomo, médecin-chef de division provinciale. Madame, Messieurs, bonjour. La Cour de cassation a ouvert hier mercredi le procès de l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Lors de cette première audience publique, le ministère public a présenté les faits reprochés aux prévenus, l'accusant d'avoir détourné 19 millions de dollars dans un marché de gré à gré avec la société Zion Construction. Cette société est décrite par le parquet général comme une entreprise fictive sans aucun actif financier. Après plusieurs demandes répétées, la défense a obtenu une remise au 23 juillet prochain, le compte-rendu de Jeff Ngoy Mulunda.
Cette remise permet à la défense non seulement de s'imprégner des pièces qui gisent au dossier, les compulser pour un débat contradictoire avec le ministère public, mais aussi de régulariser la procédure pour le prévenu qui n'a pas pu suivre tout le déroulé de l'audience à son débit. D'après la défense, la cour doit se conformer aux exigences d'un procès équitable. Yves Kisombe, avocat de Mutamba.
La procédure pénale fait dépendre de son déroulement le sort des accusés. Et ici, chacun a droit à un procès équitable. Et le procès équitable, c'est l'indépendance du juge, mais c'est aussi le respect de la procédure. Il y va des droits fondamentaux, il y va de l'efficacité de ce qui sera fait ici. Constant Mutamba n'a pas été cité régulièrement. Il a été cité par le greffier en chef, alors que c'est le procureur général qui doit lui adresser la citation à prévenu. Alors, le ministère public a, avec l'autorisation de la cour, procédé à la présentation générale des accusations contre le ministre Mutamba avant son arrivée. Elle a estimé par la suite que c'était nous, les avocats, qui devions faire le rapport à notre client. Vous verrez la ligne de la défense de Constant Mutamba.
Une trentaine d'avocats de la défense plaident pour l'innocence de l'ancien garde des Sceaux. Ils déclarent attendre de la cour de dire le vrai droit. Le prévenu comparé à un homme libre.
Je vous l'ai dit dans les titres, plus de 500 otages du groupe armé ADF et 150 combattants sont déjà sortis de la brousse depuis novembre 2022 dans le Nord Kivu et l'Ituri. Ces chiffres ont été publiés hier mercredi à Bunia au cours d'un point de presse de Bridgeway Foundation. Cette ONG internationale assure la prise en charge psychosociale des personnes kidnappées. C'était à l'issue d'une réunion d'échange avec des acteurs de la société civile sur l'impact et les limites de l'approche Chuja dans la neutralisation des EDF. Isaac Remoyope nous fait le point.
Ces personnes kidnappées par les rebelles des ADF, dont des femmes et enfants, mais aussi des combattants de ces groupes armés, sont sortis de ces rangs grâce à la pression militaire dans le cadre des opérations conjointes FARDC armée ougandaise contre ces rebelles dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À cela s'ajoute la sensibilisation menée par l'ONG internationale Bridgeway Foundation. Selon son chef de mission en RDC, l'objectif de cette démarche est d'encourager les combattants des ADF qui sont enrôlés parfois des forces à se désengager de ces groupes armés et aussi assurer leur prise en charge psychologique ainsi que celle des ex-otages et assurer leur réinsertion dans leur communauté respective. D'autre part, informer la population pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi qui chante des stratégies sur le terrain. Sekombi Katondolo, le responsable de cette organisation, explique l'importance de cette démarche pour appuyer les opérations militaires en vue de neutraliser les ADF.
Nous avons plus de 500 cas de défection des ADF depuis novembre 2022 et plus de 150 ex-combattants qui ont regagné leur famille à travers travers le JDC. Nous avons des hélicoptères qui survolent ces zones de combat avec des haut-parleurs pour dire aux combattants de quitter la forêt.
Les acteurs de la société civile à Nitori qui ont été sensibilisés à cette démarche ont salué cette initiative pour la pacification de l'Est de la RDC. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Pendant ce temps, dans la province de Olomami, l'administrateur du territoire de Bukama invite les habitants du secteur de Lualaba à enterrer la hache de guerre et à cultiver le vivre ensemble. Les affrontements entre communautés pour la gestion des lacs en cette période de pêche a déjà causé la mort de plusieurs personnes et occasionné le déplacement des populations. L'administrateur de Bukama, Madou Kalenga, explique la situation. Il est joint par Jean Gandou.
Nous vivons des situations d'affrontement dans le secteur Lualaba, surtout que c'est pendant la période de la moisson des poissons dans des petits lacs qui se créent avec la montée des eaux. Alors, la gestion de ces nouveaux lacs pose problème entre les membres des familles des clans régnantes. C'est notamment le cas qui se vit à Maka Mikombe, où il y a eu plusieurs blessés. À Kisamba, dans le lac Kaboué, où nous déplorons 7 morts et plusieurs blessés et déplacés. Je voulais ici lancer un message de paix aux habitants des villages en conflit. Il vous est demandé de rentrer sans crainte dans vos villages. Toutes les dispositions sécuritaires sont déjà prises pour vous permettre de vaguer librement à vos occupations quotidiennes. La paix et la tranquillité seront assurées par les agents de l'ordre, lesquels ont, entre autres, la mission d'appréhender tout fauteur de troubles.
Et du côté de Maïndombe, au moins 5 combattants de la milice Mobondo, dont une femme, se sont volontairement rendus à l'armée à Kwamout. Cette reddition survenue mardi 8 juillet résulte de la pression exercée par les FARDC dans le cadre des opérations Ngemba Upe. Ces opérations sont menées par la 11e région militaire pour traquer ce groupe armé qui déstabilise le Grand Bandundu depuis plus de 3 ans. Le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole de l'opération Ngemba, appelle les autres miliciens Mobondo à quitter la brousse et à s'y rendre. On l'écoute au micro de Nana Plurish Mambou.
Les commandements des opérations Ngemba déployées sous l'axe Bakata-Kwamout informent l'opinion nationale que 5 combattants du groupe armé Mobondo, dont une femme, se sont rendus ce mardi 8 juillet 2025 aux forces armées de la République démocratique du Congo dans la cité de Kwamout, chef-lieu du territoire portant le même nom. Cette reddition est le résultat des pressions militaires constantes exercées par nos troupes dans la région dans le cadre des opérations visant à rétablir l'autorité de l'État et à ramener la paix dans cette partie du pays. Les ex-combattants ont déclaré être lassés de manipulations et promesses non tenues de leurs dirigeants. Selon leurs propos, plusieurs autres combattants encore retranchés dans des fermes au village de Menko seraient également prêts à quitter la brousse. Le commandement des opérations encourage tous les autres combattants Mobondo suivre à cet exemple et le rassure quant à leur sécurité et à leur prise en charge dans le cadre du PDDRCS. Ces anciens combattants seront désarmés, cantonnés et réorientés vers des activités civiles dans le strict respect de leurs droits.
Kassai Oriental, première parade hier mercredi au stade Kachala Bonzola, tenue par le nouveau commissaire provincial de la police nationale, le général André Mbombo, a parlé de la discipline au sein de la police, de la sécurité et la tranquillité publique. Voici un extrait de son allocution sélectionnée par Esther Ndalafina.
Oyo, premier élément est à la sécurité publique. Deuxième élément.
Le premier élément est en rapport avec la sécurité publique. Deuxième élément, c'est la tranquillité publique. C'est la sérénité pour la population. Soit un modèle, non seulement de la sécurité publique, mais aussi de la tranquillité publique. Là où tu résides, le calme doit régner. Le troisième élément, c'est la salubrité publique. Nous devons commencer sur notre propre corps. Les cheveux, la barbe. Tu peux voir un policier barbu comme un acteur politique. Tu risques d'être confondu. Un policier rase à tout moment. Il ne peut pas être barbu. S'il a la moustache, il doit la garder courte. Un policier porte une tenue réglementaire. Nos tenues sont déterminées par le chef de l'État. Tu peux voir un policier en tenue de couleur noire ou bleue, différente de nos couleurs. Si on te donne la tenue, le béret, le couvre-chef, les bottines, ne les met pas en vente.
Autre nouvelle, la fraude, la contrebande, l'absence de traçabilité, le manque de raffinerie ou d'unité de transformation de l'or, autant des facteurs qui plombent les recettes publiques et nuisent à la crédibilité de l'État congolais sur le plan international. Le gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Kakule-Somo, a exprimé son inquiétude quant à ce hier mercredi à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. C'était lors d'un forum minier qui a réuni les autorités locales, les acteurs du secteur, la société civile et les opérateurs économiques. Objectif de cette rencontre, améliorer le climat des affaires pour attirer davantage des investisseurs et relever les défis structurels du secteur minier. On écoute le général Kakule-Somo au micro de Martial Papimukeba.
Le secteur minier est porteur d'espoir pour notre pays. Malheureusement, il est resté l'un des secteurs à défi, particulièrement en ce qui concerne l'exploitation minière artisanale. Plusieurs tonnes de produits miniers échappent souvent au contrôle de l'État. Un simple état de lieu permet de se rendre compte que le tableau demeure sombre. Le secteur minier artisanal congolais, de l'or par exemple, connaît à lui seul des challenges critiques parmi lesquels la fraude et la contrebande, l'absence de traçabilité, l'absence de la diligence sur les sites miniers artisanaux, la présence de flux financiers illicites, le dysfonctionnement des coopératives minières, le manque de raffinerie ou d'unité de transformation de l'or, et tous ces problèmes influent négativement sur les recettes publiques de l'État, voire même sur la crédibilité de l'État à l'international. Ces assises vont permettre de jeter les jalons qui devront concourir à relever les défis qui guettent le secteur minier dans notre province.
À Kinshasa, signalons le début hier mercredi du paiement d'une partie des arriérés de salaire et de primes des agents de l'administration publique de la ville. C'est pour le moment ceux des 3 mois qu'ils perçoivent sur les 8 en retard, d'après le président de l'intersyndicale de l'administration publique. L'annonce a été faite mardi 8 juillet à l'issue d'une réunion entre le gouvernement provincial et l'intersyndicale, rencontre présidée par le vice-gouverneur de Kinshasa, Eddy Yeli. L'exécutif provincial a promis en outre de garantir une rémunération régulière aux agents de la ville. Le président de l'intersyndicale s'en réjouit. David Delors-Louyeye appelle les agents à l'apaisement. Suivez cet extrait de ses propos choisis par Babel Mpongo Massimango.
Nous avions échangé autour des questions majeures qui rongent l'administration urbaine, notamment la rémunération du personnel tant administratif que politique. Les équipes provinciales, après avoir ramassé tous les désiderata du banc syndical, a résolu ces problèmes tant soit peu. Il a été résolu que la paye du personnel de l'administration urbaine sera déclenchée de mercredi. Le 9 juillet, les agents seront payés 3 mois sur les 8 mois. Nous avions réitéré nos remerciements aux membres des équipes provinciales. Le banc syndical a toujours cherché qu'il y ait un cadre de dialogue franc. Aujourd'hui, il a été accepté par l'exécutif provincial et c'est ainsi que nous demandons à tous les agents de l'administration publique urbaine qui étaient touchés par le communiqué que nous avions fait pour lesquels ils réclamaient leurs droits. Nous leur demandons l'apaisement et les invitons à vaquer librement à leurs occupations en attendant que nous puissions communiquer une rencontre avec eux dans le cadre de la restitution de nos échanges auprès de toute l'administration publique urbaine.
Pendant ce temps, au Maniema, les chauffeurs des taxis réclament des éclaircissements sur la gestion des fonds issus de la taxe conventionnelle qu'ils paient depuis 9 mois. Dans une interview à Radio Capi, mardi, ils disent s'acquitter régulièrement de cette taxe de 1500 francs congolais par jour, mais déplorent l'absence d'impact visible sur le terrain. Ils interpellent l'autorité provinciale et ses collaborateurs pour plus de transparence. Écoutez à ce sujet Ochangi Osenge Trésor, président de la force unitaire des motards indépendants du Maniema. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Nous avons les réclamations de la taxe, les prix de 1500 francs pour chaque taximen que nous payons à chaque fois, parce que nous avons même des récits. Après avoir payé ce montant-là, jusqu'à maintenant, nous comptons au moins 9 mois que la taxe conventionnelle se paye auprès des taximen, mais nous ne voyons rien auprès de notre gouvernement. Nous voulons juste savoir si cet argent fait quelque chose ou pas. On a dit que non, cet argent fait l'activité à Lubutu. On ne sait pas si nous, les taximen, disant centre-ville. Nous travaillons là à Lubutu ou pas. Nous, nous sommes les taximens du centre-ville. Nous travaillons ici même. Maintenant, quand il vient de réhabiliter là-bas, nous, nous sommes maintenant les souffrants. Donc, la taxe là que nous payons n'a pas l'impact. 9 mois aujourd'hui, avec l'évaluation qui disent que non, ils font l'évaluation. Nous ne voyons pas l'évaluation. Et on adresse cette parole au président de l'Assemblée, y compris le général, enfin, qu'il soit quand même comme le parrain, qu'il reçoive même les réclamations des taximens. Ce n'est pas aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on réclame.
Toute tentative d'avoir la réaction du gouvernement provincial n'a pas abouti.
Actualité internationale.
Le président américain Donald Trump a ouvert hier un déjeuner à la Maison Blanche avec les dirigeants africains. La réunion surprise avec les dirigeants du Libéria, du Sénégal, du Gabon, de la Mauritanie et de la Guinée-Bissau intervient alors que l'administration Trump a pris des mesures radicales destinées selon elle à remodeler les relations des États-Unis avec l'Afrique. Les dirigeants d'Afrique de l'Ouest qui ont pris la parole un par un ont salué les efforts du président américain pour tenter de favoriser les accords de paix dans le monde.
L'invité.
La province de la Tchopo fait face à une épidémie de choléra. Les chiffres communiqués par la Division provinciale de la santé sont préoccupants. Plus de 300 cas recensés, dont plus de 250 décès depuis le début de l'épidémie à la 9e semaine épidémiologique. Pour mieux comprendre cette situation et les mesures prises, nous recevons le docteur Bienvenu Ikomo, médecin-chef de la Division provinciale de la santé dans la Tchopo. Il est avec Jacques Moukonkolé.
Docteur, bienvenue Ikomo, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quelle est la situation réelle du choléra dans la province de la Tchopo?
Bon, monsieur le journaliste, merci pour la préoccupation. La maladie, elle est réelle dans la province de la Tchopo. Alors, il y a un total de 15 zones de santé aujourd'hui qui notifient les cas. On a commencé depuis la semaine épidémiologique numéro 9, depuis la semaine 9 avec la zone de santé de Loa. Et aujourd'hui, il y a la zone de santé de Yaïsoul qui vient de s'ajouter. C'est que nous totalisons déjà 15 zones de santé qui notifient des cas.
Combien de cas sont rapportés aujourd'hui dans l'ensemble?
Dans l'ensemble, ce que je donne le cumul depuis qu'on avait notifié les premiers cas et depuis le 4, le 7 juillet, que le gouverneur de province avait déclaré l'épidémie de choléra dans la province de la Tchopo. Aujourd'hui, le cumul des cas fait un total de 3939 cas contre 254 décès. Et c'est une létalité qui avoisine 6%.
Est-ce qu'il y a une catégorie, ou plutôt une tranche d'âge qui est la plus touchée?
Bon, par rapport à la tranche d'âge, c'est beaucoup plus les vulnérables. Ça veut dire que ici, c'est beaucoup plus les enfants de moins de 5 ans. Il y a les femmes enceintes aussi. Il y a les personnes de 3e âge. Ils sont vraiment faibles vis-à-vis de cette pathologie, mais au moins toutes les tranches d'âge sont touchées.
La ville de Kisangani est aussi concernée?
Oui, la ville de Kisangani est aussi concernée, puisque la ville de Kisangani, nous avons les différentes zones de santé urbaines, les 5 zones de santé de la ville de Kisangani. Parmi les 5 zones de santé, il y a la zone de santé de Kabondo, il y a la zone de santé de Makiso Kisangani et la zone de santé de Lubunga, qui avait aussi notifié des cas.
Docteur, les chiffres que vous venez d'avancer tout à l'heure sont vraiment effrayants. Quelles sont les causes de la propagation de cette épidémie?
Comme vous le savez, la première zone de santé qui avait commencé à notifier les cas, c'est la zone de santé de Loa. Alors, beaucoup plus les gens se contaminent par l'eau des boissons et les aliments qui sont contaminés. Lorsqu'on prend de l'eau et des aliments qui sont contaminés, alors vous serez aussi contaminé. Et vous voyez, avec le fleuve, les gens sont en train de déféquer dans l'eau. Moi-même, je suis arrivé jusqu'à Nona, à Babingi, dans la zone de santé de Wanyarukula. Je suis allé la semaine passée. J'ai vu comment à 5 km, il y a un poste de santé juste à côté, et même au niveau de Wanyarukula sur place. Comment est-ce que les gens sont en train de déféquer dans l'eau? Lorsque vous êtes en train de déféquer dans l'eau, ça veut dire que vous êtes en train de faire en sorte que ceux qui sont en aval peuvent facilement se contaminer, puisque beaucoup de nos compatriotes à ce niveau-là, ils sont en train d'utiliser l'eau du fleuve pour la cuisson, pour la boisson. Ils utilisent l'eau du fleuve, et c'est comme ça que les gens se contaminent facilement.
Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, docteur, quelles sont les dispositions que vous avez envisagées?
Bon, à notre niveau, il y a d'abord, lorsqu'on a déclaré l'épidémie, au niveau de la province, nous avions mis en place le système de gestion de l'incident. et tous les piliers sont opérationnels. Que ce soit la surveillance, la prise en charge, la PCI, la communication et avec l'appui des différents partenaires. D'abord, c'est l'OMS qui avait commencé avec un grand lot de médicaments. Nous avions reçu les médicaments de la Banque mondiale, nous avions reçu les médicaments de l'UNICEF et même le financement UNICEF pour la réalisation des activités pour soutenir les différents piliers. Il y a les activités des PCI qui avaient déjà commencé avec la désinfection, la décontamination et même la chloration aussi. Toutes ces activités ont déjà commencé et nous continuons à recevoir cet appui de nos partenaires MSF qui sont dans les zones de santé de Yakoussou. Ils appuient aujourd'hui Sangui. Ils sont aussi à Opala. Alors, il y a le superviseur de la DPS, les EPP, qui sont déjà sur terrain pour accompagner les équipes des zones de santé pour cette riposte contre cette épidémie de choléra. Le gouvernement provincial aussi n'a pas croisé les bras. Son Excellence Paulé Ndongoli Alibabonga a mis la main dans sa poche pour appuyer aussi cette réponse.
Et vous pensez qu'avec cet appui, l'impact peut être certain sur le terrain?
Bon, vous savez, c'est une épidémie. Pour réussir par rapport à cette épidémie, je pense que ici devant nous, on doit d'abord respecter les gestes barrières. C'est que les gens doivent consommer de l'eau potable ou de l'eau traitée. Ils doivent se laver les mains régulièrement, éviter de déféquer dans l'eau.
Docteur, bienvenue, Ikomo, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Le médecin-chef de la division provinciale de la santé dans la Tchopo répondait aux questions de Jacques Moukonkolé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.